Vous écoutez Radio Capi.
Radio Capi.
Le journal d'Elinda Bossouma.
À la une, calme apparent ce dimanche sur l'axe Massissi Centre au Nord Kivu. C'est après l'occupation rebelle de Massissi Centre hier samedi. Les rebelles ont tenu un meeting rassurant les quelques habitants qui y sont restés pour leur sécurité. Entre-temps, le mouvement des populations est observé en direction de Walikale. Joseph Kabila n'a jamais pris sa retraite politique, il serait en congé sabbatique. C'est en tout cas ce qu'a dit le coordonnateur de la cellule de crise du FCC, Raymond Tshibanda, a fait ses déclarations hier à Kinshasa à l'occasion du 4 janvier consacré aux martyrs de l'indépendance. Et puis, entre la révision ou le changement de la constitution de la RDC, oui pour la réécriture d'une nouvelle constitution de la RDC, c'est le thème au centre d'une conférence débat hier à Bunia, organisée par l'ONG Laboratoire scientifique de paix, justice, démocratie et développement. Pour en parler, nous recevons l'orateur du jour, le professeur Patrick Chombé. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Situation relativement calme et imprévisible ce dimanche sur l'axe Massissi Centre où les armes se sont tues momentanément depuis la soirée d'hier. Ce matin, on observe un calme apparent au chef-lieu du territoire qui reste sous occupation rebelle. Des sources dans la région rapportent qu'après la prise de Massissi Centre, les rebelles ont tenu un meeting devant le bureau administratif du territoire, rassurant les quelques habitants qui y sont restés pour leur sécurité. On note cependant le mouvement des populations de Nyabiondo, Bukombo et Luashi en direction du territoire de Walikale. Elles quittent préventivement, craignant la progression éventuelle des rebelles. Pendant ce temps, sur l'axe Bweremana, un peu au sud, les FARDC gagnent du terrain. Elles ont contenu et repoussé l'ennemi qui tentait de déborder, affirment les habitants qui viennent d'arriver ce matin à Minova. Ces sources confirment également la reconquête de la colline de Ndumba et une partie de Chacha par l'armée. Par ailleurs, la prise des grandes agglomérations dont Massissi Centre hier par le M23 vient encore une fois aggraver la situation humanitaire dans cette province. Des milliers de personnes sont en fuite, laissant derrière elles des villages fantômes. Alors que le Nord Kivu compte déjà plus de 5 millions de déplacés internes, ces nouveaux déplacements viennent à nouveau plonger la province dans un drame humanitaire. Johnson Ishara, coordonnateur de la structure dynamique Génération Consciente RDC, parle d'une urgence humanitaire. Il lance un appel pressant pour venir en aide aux populations touchées qui manquent cruellement de nourriture, abri et exposées à tout danger. Johnson Ishara est au micro de Denise Lukeso.
D'abord, autour de la ville de Goma, nous avons plus d'une trentaine de camps. Il y a beaucoup de camps qui n'ont pas accès ni à l'eau, à la nourriture, ni même aux soins de santé. Il s'ajoute une autre marée de personnes qui est en train de se déplacer. Parmi ces déplacés-là, on va retrouver beaucoup d'enfants, de nombreuses femmes enceintes qui sont en difficulté de se déplacer, également des personnes âgées. Mais derrière le coup de balle, tout le monde cherche à se sauver et ce sont ces gens-là qui continuent à souffrir sans assistance, sans abri et c'est inacceptable. Donc il y a déjà un débordement incommensurable. C'est dramatique ce qui se passe du point de vue humanitaire dans la province du Nord Kivu et c'est un scandale humanitaire grave. Maintenant, face à ces drames, nous appelons à une urgence humanitaire. D'abord, du côté gouvernement, il faut qu'un plan de contingence humanitaire spécial soit mis en place pour la province du Nord Kivu. Et il faut que ce soit un plan de contingence clair, pratique, pas celui qui va se limiter dans les discours. Il faut assister ses compatriotes parce qu'ils sont en train de souffrir suite à une mégestion de la République qui fait sombrer la partie est dans une guerre interminable.
Au sud Kivu voisin, les conditions de vie des déplacés du territoire de Fizi restent inchangées. Environ 84 000 personnes dorment à la Belle Étoile. Elles sont sans abri, sans nourriture ni médicaments. L'administrateur du territoire redoute une catastrophe humanitaire en cas d'absence prolongée d'assistance. Ces déplacés ont fui leur village suite aux affrontements qui ont opposé l'armée à la coalition rebelle Makanika, Android, Gumino dans les Hauts Plateaux au mois de décembre dernier. L'administrateur de Fizi exprime ici son inquiétude. Sami Badibanga Kalonji dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
Après enquête de mes services techniques du territoire, notamment l'antenne humanitaire, les services Joar et la Duvas, la situation humanitaire se présente de la manière suivante. Dans le secteur de Tanganyika, nous avons 19 613 personnes déplacées. Dans le secteur de Mutambala, nous avons 19 540 personnes déplacées. Dans le secteur de Nganja, nous avons 31 574 personnes déplacées. Dans le secteur de Lulenge, nous avons 11 360 personnes déplacées. Au total, nous avons plus de 84 000 personnes déplacées sur toute l'étendue du territoire de Fizi. Je plaide auprès des gouvernements qu'ils viennent en aide aux déplacés démunis de tout. Nous avons les femmes, les enfants, le vieillard et les handicapés passent nuit à la belle étoile sous toutes les intempéries.
Pendant ce temps, en Ituri, un accrochage est signalé ce dimanche entre des militaires des FARDC et des Mai Mai qui affirment être des Wazalendo. Cela se passe à Makumo, dans le territoire de Mambasa. Des sources locales dressent un bilan d'un mort et plusieurs blessés. La société civile territoriale de Mambasa condamne cette situation et appelle le gouvernement à désarmer tous les Mai Mai qui commettent des exactions au nom des Wazalendo. Elle recommande également que ces combattants puissent intégrer le programme PDDRCS. Mungeni Imurani, joint par Sadiq Aboubakar.
Cet affrontement a opposé les éléments des Wazalendo contre les militaires de la FARDC. C'était une provocation de la part des éléments des Wazalendo. Le bilan est d'une personne tuée et cette blessée aura des Wazalendo. La société civile, Force Vive du territoire de Mambasa, condamne cet affrontement et appelle le gouvernement congolais d'accélérer le processus de PDDRCS ou désarmement pour mettre fin à l'activisme des groupes armés partout en territoire de Mambasa dans le but de promouvoir la paix et le développement de notre cher territoire.
Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée ni des autorités administratives à ce sujet. Et puis, au moins 57 présumés Kuluna ont été transférés hier de Kinshasa vers la prison de haute sécurité de Angenga dans la province du Sud-Ubangi. Cette deuxième vague d'expédition s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna visant à dissuader le banditisme urbain qui sévit à travers la RDC. Des détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a lui-même assisté au déroulement de cette opération aux côtés des représentants du ministère de l'Intérieur et du commissaire divisionnaire adjoint de Kinshasa à l'aéroport international d'Ndjili. Selon des sources officielles citées par l'agence congolaise de presse, le commandant de la police nationale ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a réitéré son engagement à mettre fin au phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Cet officier de la police nationale a également appelé les parents à conscientiser leurs enfants, à arrêter avec ce genre de comportement, car une fois appréhendés, ils seront entre les mains de la justice. De la prison centrale de Makala à l'aéroport international d'Ndjili, la population, plus que satisfaite, n'a pas caché sa joie pour cette opération, une façon pour elle d'approuver la sérénité avec laquelle la justice traite ses délinquants. À Radio Kapi, Yves Kisombe, le porte-parole du ministre de la Justice, a assuré que ces opérations vont se poursuivre sans désemparer, comme a annoncé son ministre. Notons que la troisième vague des transferts de ces Kuluna interviendra ce dimanche 5 janvier.
Je vous le disais en titre, le Front commun pour le Congo, FCC, interpelle et appelle au devoir dans une déclaration rendue publique le 4 janvier à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance de la RDC. La cellule de crise de cette plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila demande au peuple congolais dans son ensemble d'être digne de ceux qui ont donné de leur vie pour le pays. De ce fait, Raymond Tshibanda, coordonnateur de cette cellule de crise, tout en appelant à la prise de conscience et d'activer la résistance face à ceux qui, dit-il, briment nos libertés, il fait une annonce fracassante. Jacques-Yves Molima nous en parle.
Que ceux qui prennent le taiseux pour un muet et donnent le lion au repos pour mort, c'est des trompes, souligne Raymond Tshibanda dans cette déclaration. Ainsi pour signifier que Joseph Kabila n'a jamais pris sa retraite politique. Il serait, dit-il, en congé sabbatique et qu'il demeurait disponible pour aider le peuple comme par le passé. Une position qui tient sur pied de la dernière déclaration de Joseph Kabila le 23 janvier 2019, telle que soulignée dans la déclaration, je cite, « Avec votre concours, je fais ma part pour l'heure ». Fin de citation. Ce retour de Joseph Kabila sur la scène politique qu'annonce le FCC, c'est pour inviter le peuple congolais dans, je cite, « la lutte sans merci contre la dictature ». Fin de citation. En effet, pour la cellule de crise du FCC, le peuple devrait, je le cite encore, arrêter d'applaudir ceux qui, tous les jours, briment nos libertés et se moquent éperdument de notre croissante précarité. Bref, notre devoir est de braver la peur et de nous dresser résolument contre la dictature. Fin de citation.
Dans l'actualité aussi, les services de sécurité de la province du Sud Kivu ont procédé hier à l'arrestation de 3 exploitants illégaux des minerais à Rubimbi, dans le territoire de Walungu. Le service de communication du gouvernorat qui donne l'information atteste que ces 3 sujets chinois étaient en possession de 10 lingots d'or et d'une somme importante d'argent. D'autres sources parlent de 12 lingots d'or avec 800 000 dollars américains. C'est la deuxième vague d'arrestation après celle de mi-décembre et dont tous les 14 suspect avait été expulsé en Chine sur ordre de la haute hiérarchie de la DGM Kinshasa, mais au grand mécontentement du gouverneur du Sud Kivu qui mène l'opération de traque des étrangers qui exploitent illégalement les ressources minières de cette partie du pays. Rendons-nous dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. L'hôpital général de référence de Mamboa éprouve d'énormes difficultés de prise en charge des malades, faute de médicaments. Selon le docteur Tembo Kipisa Demetrio, médecin directeur de cet hôpital, la zone de santé de Biena est victime de l'insécurité depuis juin 2024. Il accueille un grand nombre de déplacés de guerre, pour la plupart des démunis, qui manquent de moyens pour honorer leurs frais médicaux, ce qui occasionne, selon lui, la rupture des médicaments. Docteur Tembo Kipisa plaide auprès des autorités pour l'approvisionnement en médicaments afin d'assurer correctement la prise en charge des malades dans cette zone de santé qui dessert quelques 170 000 habitants. Docteur Tembo Kipisa est joint par André Kitenge.
Il y a des ruptures de certains produits importants dans la prise en charge des malades. Et les causes, il faut quand même dire que la zone de santé de Biena traverse un moment d'insécurité depuis juin 2024. Donc, il y a les ADFNAL qui ont pénétré dans cette zone de santé, qui ont brûlé des centres de santé. Et une autre conséquence, c'était la fermeture de la majorité des aires de santé de la zone de santé de Biena. Et donc, l'hôpital seul était opérationnel. Et comme conséquence, cet hôpital pouvait accueillir un grand nombre de malades, les déplacés, démunis. Les malades qui étaient incapables de s'acquitter de leurs factures. Et cela a occasionné des pertes importantes en médicaments. La conséquence est que la population ne sera pas prise en charge correctement. Et ce que nous pouvons demander aux autorités politico-administratives à tous les niveaux de venir en aide à la population de la zone santé de Biena en lui rendant des médicaments.
Du côté du Congo central, dans le territoire de Mbanzangungu, l'aire de santé de Nkolotava, en secteur de Kivulu, fonctionne dans des conditions déplorables. La cause, selon l'infirmière titulaire de ce centre de santé, est le manque criant des équipements médicaux, des médicaments et du personnel soignant. D'après John Tima, l'aire de santé de Nkolotava, qui aujourd'hui applique la maternité gratuite prônée par le chef de l'État, n'a jamais bénéficié d'un don du gouvernement ni des partenaires. Nana Pluriche Mambo. Reportage.
Cette aire de santé est dépourvue des équipements médicaux tels que microscopes, lit d'hospitalisation, matelas, lit d'accouchement, balance et autres matériels indispensables pour la prise en charge des malades. Même le personnel fait défaut. Il fonctionne qu'avec 3 personnes, l'infirmier titulaire, son adjoint et un infirmier traitant. Et pourtant, elle couvre une population estimée à 6466, disséminée dans 13 villages et organise plusieurs services dont la maternité, la consultation prénatale et préscolaire, les soins hospitaliers et la vaccination. L'infirmier titulaire de l'aire de santé de Kolotava, John Timba, qui l'affirme, révèle que l'hôpital n'a pas aussi un laborantin. Leur microscope manque de réactifs et ne peut réaliser que l'examen des selles. Pour d'autres examens tels que Widal, les centres recourent à la lumière du soleil pour interpréter les résultats. John Timba laisse entendre que depuis l'ouverture de ses centres de santé en 1995, celui-ci n'a jamais bénéficié d'un don du gouvernement ou des partenaires. Les bâtiments qui abritent cette structure est très vétuste. Pas une peinture, moins encore un crypsage sur les murs. D'ailleurs, les mentions centres de santé est écrit à la craie. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Côte d'Ivoire, soupçonné d'une avarie de sa cargaison, le Zimrida, un navire transportant du nitrate d'ammonium, cette substance hautement inflammable à l'origine de la terrible explosion dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, a été placé sous surveillance renforcée par les autorités ivoiriennes. Et puis, l'Amérique célèbre la mémoire de l'ancien président Jimmy Carter, disparu le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. L'hommage national a débuté samedi en Géorgie, son état natal. Il marque le coup d'envoi de 6 jours de cérémonie jusqu'au deuil national le 9 janvier prochain.
L'invité.
À Bounia, l'ONG Laboratoire scientifique de paix, justice, démocratie et développement a organisé hier une conférence débat sur le thème « Entre la révision ou le changement de la constitution de la RDC ». Oui, pour la réécriture d'une nouvelle constitution de la RDC, ce cadre d'échange scientifique a réuni plusieurs étudiants, des scientifiques et acteurs politiques. Le professeur Patrick Tchombe, orateur du jour et l'invité de ce journal, il explique sa démarche dans cet entretien avec Sadiq et Aboubakar.
Professeur Patrick Tchombe, bonjour.
Bonjour.
Entre la révision et le changement de la constitution, vous proposez plutôt la réécriture de la constitution congolaise. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, nous pensons que la question de la révision ou du changement n'est pas d'abord une question taboue, c'est une question constitutionnelle, c'est toute la révision. Et nous voyons qu'il y a des débats qui vont dans tous les sens, quant à savoir faut-il réviser ou changer. Et nous pensons qu'il faut couper la poire en deux, il faut plutôt réécrire la constitution.
Ça veut dire quoi?
La réécriture est une démarche qui consiste à permettre à ce qu'on ait un texte totalement compact, un texte qui n'a pas encore de dispositions révisées d'avance, puisque déjà la constitution actuelle est déjà révisée, et par conséquent, il faudra réécrire la constitution. Ça veut dire doter les pays d'une nouvelle constitution.
Donc un changement.
Des pays d'une nouvelle constitution qui tient compte de l'aspiration de tout le monde.
Ayant parcouru la constitution du pays, quelles sont d'après vous les dispositions qui bloquent l'épanouissement de la nation et qui mérite une réécriture, pour emprunter vos mots?
Il y a plusieurs dispositions qui ne sont pas trop digestes et qu'il faudra réécrire, notamment la question sur la désignation de l'informateur du gouvernement. On se dit pourquoi désigner l'informateur du gouvernement et qui prend du temps plus souvent, plus de 2-3 mois qu'on sort. Il y en a plusieurs questions qu'on peut débattre ici.
Vous souhaitez un régime présidentiel pour la RDC, n'est-ce pas ouvrir la voie à la dictature?
Non, en fait, le droit constitutionnel est un droit qui règle le fonctionnement du pouvoir. Le régime présidentiel existe de par le monde et fonctionne toujours bien. Aujourd'hui, quand nous voyons notre pays, je me dis, avec cette démocratie ici, est-ce qu'elle n'est pas à la base d'instabilité politique? Est-ce que l'homme congolais est prêt pour la démocratie? Moi, je pense plutôt qu'il faudra donner au chef de l'État les pleins pouvoirs d'agir et de répondre lui-même, que de passer par un régime présidentiel où le Premier ministre est responsable dans le Parlement et maintenant lui, il est... Non, je pense plutôt qu'il faudra aller dans le régime présidentiel pour donner tous les pouvoirs de l'État pour agir.
Parmi les innovations, vous proposez la suppression du pluralisme politique qui est pourtant consacré dans l'article 220 de la Constitution actuelle, une disposition interdite de toute révision constitutionnelle.
Dans la réécriture que nous proposons, toutes les constitutions sont révisables ou à réécrire. Et lorsqu'on voit aujourd'hui les partis politiques au Congo, il y en a 900 et quelques. Et je me dis que leur importance, c'est d'apporter quoi au pays, si ce n'est qu'apporter le pouvoir à ceux qui l'ont créé. Et je me dis, le multipartisme intégral ici chez nous au Congo n'a pas apporter la démocratie. Au contraire, ça apporte beaucoup de déviations de démocratie. Je pense plutôt que vous revenez sur le multipartisme tempéré avec des partis politiques derrière une idéologie bien claire que le pays va aller de l'avant.
Un des intervenants estime que la constitution actuelle du pays est la meilleure et que des problèmes et dysfonctionnements évoqués, c'est plutôt une affaire d'hommes ou des gouvernants. Qu'en pensez-vous?
Il a raison à moitié, mais je peux rappeler en disant que la constitution elle-même d'abord doit être écrite à des termes non équivoques. Et l'idée du constituant doit être vidée des dispositions constitutionnelles. Et dès qu'il y a des dispositions qui prêtent à confusion, cela maintenant aide maintenant à ceux qui gèrent de mal gérer.
Pour finir, pensez-vous qu'il est opportun actuellement que la RDC puisse procéder à la modification de sa constitution?
L'opportunité est une question politique. Notre débat est plutôt un débat juridique. Et je pense que si le chef d'État a pensé que c'est opportun, je ne vais pas dire autre chose.
Vous avez décortiqué la Constitution et cette opportunité également tracée dans la Constitution.
L'opportunité n'est pas dans la Constitution. L'opportunité, c'est l'appréciation de l'environnement politique du milieu sur base de tel ou tel aspect. Pas dans la Constitution. La Constitution est dans la légalité où on dit qui peut initier, c'est réglé.
Quand?
À tout moment.
Quand on est sous état de siège.
État de siège est parmi les moments où on ne peut pas initier. Et ici, qui vous dit qu'on va réviser maintenant la Constitution? Personne ne connaît. Donc, pour dire qu'on peut commencer maintenant la démarche et prendre des faits après 2 ou 3 ans.
Professeur Patrick Tchombe, merci.
Avant de vous remercier.
Notre invité répondait aux questions de Sadiki Aboubakar. Par ici, prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta et Blaise Shindani Kambala. À la mise en onde, Alain Goy, merci d'avoir été des nôtres.